Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, le Seigneur est en butte durant toute sa vie, comme nous, car les chrétiens sont d'autres Christ, vous le savez. Il a été en butte toute sa vie à la contradiction, et ici, on cherche à le faire tomber sur une question politique. C'est très simple, on cherche à le condamner, mais on cherche non pas à le condamner pour des questions théologiques, car c'est difficile, en fait, et puis surtout, comme vous le savez, vous connaissez la fin de l'Évangile, on cherche à le condamner, à le faire condamner pour des raisons politiques, parce que Pilate avait le pouvoir de mettre à mort, et c'est ce que cherchent les adversaires de Jésus. Donc, il fallait obtenir une condamnation politique. Voilà pourquoi la question d'aujourd'hui sera une question politique. C'est une question qui porte sur l'argent et la collaboration avec le pouvoir romain. Je vous propose de le voir en deux temps. D'abord, Dieu et son rapport avec le vrai et le faux. Et ensuite, Dieu et César, c'est-à-dire l'ordre temporel et l'ordre spirituel. Dieu, le vrai et le faux. Disons-le tout de suite, il y a une petite ambiguïté. Il y a dans la vie, quand on se trompe, deux possibilités. Je viens, pardon, de me révéler. Quand on dit quelque chose qui n'est pas juste, il y a deux possibilités. Soit on se trompe, soit on ment. Et c'est pas pareil du tout. Vous le savez, l'un n'est pas un péché, mais l'autre si. Se tromper n'est pas un péché. Il peut arriver qu'on se trompe. Et même, vous le savez, on apprend de nos erreurs. On arrête de le répéter aux enfants. Socrate, dans un optimisme assez béat, disait « Nul n'est méchant volontairement ». C'est-à-dire que quand on est méchant, eh bien, c'est simplement parce qu'on ferait erreur sur l'action à poser. Je ne serai pas aussi optimiste que Socrate, mais il faut tout de même faire crédit en général aux autres que, tout simplement, ils n'ont pas vu ce qu'il fallait faire de bien et qu'ils se trompent sur l'action qu'ils posent. Ainsi Pascal, pour en venir à un auteur plus chrétien, eh bien, Pascal dit, quand quelqu'un pose un acte qui est faux, eh bien, ça ne sert à rien de lui dire « c'est faux ». Il faut lui montrer par quel côté il n'a peut-être pas vu la question et donc par quel côté il se trompe. Vous le voyez donc bien, se tromper n'est pas un péché, ce n'est pas ici la contradiction du Seigneur. La vraie contradiction du Seigneur, évidemment, ce n'est pas l'erreur, c'est le mensonge. Parce qu'alors, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous ment, c'est-à-dire quelqu'un de malhonnête, eh bien vous ne pouvez rien. Ici, le mensonge est parfait, si j'ose dire, il est complet. Il s'agit de tromper Jésus, ce sont les pharisiens qui viennent déjà avec les Hérodiens. Il faut vous dire que les pharisiens, c'était les plus juifs des juifs, les plus religieux, et puis les Hérodiens, c'est les plus laïcs, ça ne veut pas dire grand-chose à l'époque, mais c'est les plus politiques. C'est ceux qui sont les partisans d'Hérode, qui est un juif converti, mais qui gouverne avec l'empereur, ou grâce à la personne de l'empereur. Donc déjà, ce sont deux parties contradictoires qui sont ensemble. On sent déjà qu'il va y avoir une magouille. Et puis, ensuite, il pose une question qui est une question de zélotes. C'est-à-dire, ce sont les zélotes, c'est ceux qui refusaient de payer l'impôt à César parce qu'ils refusaient la collaboration. C'était le parti nationaliste qui refusait la botte romaine. Alors, le fait que tous ces gens soient mélangés, ça sent déjà un petit peu l'arrangement de malfaiteurs. Et puis, le Seigneur va les démasquer d'une manière très fine et admirable. Il lui demande alors, est-ce qu'on doit payer cet impôt, oui ou non? Vous comprenez bien que s'il dit oui, on doit payer l'impôt, alors il est le collaborateur des Romains, les zélotes vont pouvoir l'accuser, le lapider. Et puis, s'il dit non, il ne faut pas payer l'impôt à César, alors on va pouvoir le traduire devant le tribunal de Pilate, parce que il a refusé l'ordre imposé par César. La question est donc piégée. Le Seigneur va leur demander, avant de répondre, « Montrez-moi une pièce ». Ça veut dire que le Seigneur, sur lui, n'a pas cette pièce. Ça veut dire que lui n'est pas le collaborateur des Romains. Il ne s'est pas encore prononcé, mais lui n'a pas cet argent. Et il se trouve que ce sont ceux qui essayent de le piéger, qui ont sur eux la pièce. Donc déjà, les collaborateurs des Romains, ceux qui ont déjà donné une réponse, c'est ceux qui essayent de lui poser la question, puisqu'ils ont cet argent sur lui. Si vous refusez absolument cet argent, eh ben, il ne faut pas l'utiliser. Il faut faire du troc. Alors le Seigneur a bien montré que non seulement ils sont dans l'erreur, mais en plus, qu'ils sont parfaitement faux. Et puis, vous le savez, ils sont tellement faux qu'ils vont dire avec obséquiosité quelques compliments au Seigneur, lesquels sont vrais. Tu es toujours vrai, tu dis la vérité, ta justice est bonne. Tout ça est vrai, puisque tu ne fais pas acception de personne. La question est donc que même ceux qui sont dans l'erreur peuvent reconnaître la vérité. C'est une bonne nouvelle, s'ils sont honnêtes. Ça veut dire, mes frères, que nous avons la capacité de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Pourquoi ? Vous avez vu comment le Seigneur va répondre ? De qui est cette monnaie ? Il va rendre son jugement en fonction de la chose qu'on lui présente. Dans mon ancien métier, on disait « La loi a son fondement dans la chose ». Fundamentum in re. On doit fonder les lois sur les choses. Si vous inventez des lois qui n'ont pas de rapport avec les choses, et malheureusement ça peut arriver, votre loi va être injuste. Parce qu'elle ne va pas correspondre à la réalité des choses. Le vrai, c'est l'adéquation qu'il y a entre ce que je pense et ce qui est. Un peu de philosophie un instant, mais ce n'est pas compliqué. Si vous pensiez aujourd'hui être à la messe catholique du 29e dimanche du temps ordinaire, bah vous avez raison, parce que c'est la réalité de ce que je suis en train de célébrer. Si vous pensiez autre chose, eh bien, vous êtes dans l'erreur. C'est-à-dire que le vrai et le faux correspondent à la réalité de ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui invente le vrai et le faux. Vous voyez bien ce que j'essaye de montrer, dénoncer, ce relativisme ambiant qui tente à nous faire à croire que oh, tout est vrai, tout est faux, Dieu existe, Dieu n'existe pas, ça dépend de ton cœur, de celui-ci, de... Non. Bien sûr que la connaissance dépend de mon cœur. C'est moi qui pose un acte de connaissance. Mais cette connaissance, elle rencontre une réalité. Si je vous dis que cette chaire à prêcher est de style gothique, eh bien, c'est faux. Même si je rêverais de la voir gothique, elle n'est pas gothique. Je vous rassure, je ne rêve pas de gothique. Heureusement, pour un curé de Saint-Roch, ça serait embêtant. Hein ? Voilà. Vous avez la capacité, dans votre être, dans votre conscience, de juger du vrai et du faux. C'est extraordinaire. Bien sûr, du coup, certains ont la possibilité de mentir, de choisir les ténèbres, de ne pas mettre en lumière les choses. Vous le savez, ceux qui mentent ne veulent pas qu'on leur explique qu'ils ont tort. Ceux qui ont tort aiment bien qu'on leur explique, parce qu'ils disent « Ah, merci de m'avoir expliqué, j'ai compris, je connais mieux ». Mais ceux qui mentent ne veulent surtout pas que vous leur expliquiez qu'ils ont tort. Alors voilà, c'est ce que fait le Seigneur. Il se permet de leur expliquer que non seulement ils ont tort, ce qui met en lumière le fait qu'ils mentent. Le mensonge est l'opposé exact de la foi. C'est l'erreur érigée en idéologie. C'est l'absence de Dieu dans le monde. Si vous tombez sur quelqu'un de menteur, il faudra pour qu'il entende le message de Dieu d'abord qu'il se convertisse. C'était mon premier point du faux et du vrai au regard de Dieu. Ce qui est vrai, c'est ce qui existe. Ce qui est faux, c'est ce que j'invente. Alors voyons donc maintenant le cœur de la réponse dans mon deuxième point. Le Seigneur va donner une réponse dont l'Église va s'emparer au cours des siècles pour une raison de vie de l'Église et de rapport avec le monde. Il leur dit, puisque cette pièce appartient à César, rendez-la à César. C'est une évidence. Puisque vous l'avez déjà dans la poche, puisque vous acceptez le système, bah, allez jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas gagner sur les deux tableaux. Gardez l'argent de César et ne pas vouloir collaborer avec César. Mais le Seigneur va les amener plus haut. Il leur dit, rendez à Dieu, à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, il va établir un partage que nous, on va appeler, au cours des siècles, on va comprendre, hein, que c'est la séparation des deux ordres. L'ordre temporel, celui du gouvernement du monde et de la cité, et l'ordre spirituel, celui du gouvernement des âmes et de la foi. Les orthodoxes, d'ailleurs, dans le monde oriental, ont une théorie assez semblable, même si nous n'en tirons pas exactement les mêmes conséquences. Chez nous, ça s'appelle la théorie des deux ordres, temporel et spirituel. Dans le monde oriental, ça s'appelle la théorie des deux glaives, le temporel et le spirituel. Pourquoi ? Parce que l'Église, durant toute sa vie, et peut-être à mon avis encore aujourd'hui, a eu à se battre contre la confusion entre Dieu et le monde. Et oui, c'est une grande constance du monde, vous savez, hélas, rien n'est jamais nouveau sous le soleil. L'Église est née dans l'Antiquité, où il y avait une confusion, où César était Dieu. Et donc, il fallait rendre un culte à César, il fallait obéir à César comme à Dieu. Vous le savez, c'est le motif de persécution des chrétiens. Les chrétiens qui respectent toujours l'ordre temporel, qui ont respecté César dans l'organisation du monde, ont réservé les droits de Dieu. Comme le dit saint Jean Chrysostome déjà, 6e siècle, eh bien, cette phrase s'entend, bien entendu, sauf l'obligation de servir Dieu. Nous allons rendre à César ce qui lui appartient, mais seulement ce qui lui appartient. Or, tout n'appartient pas à César. Mon âme n'appartient pas à César. Mon cœur n'appartient pas à César. Mes sentiments n'appartiennent pas à César. Ma foi n'appartient pas à César. César, c'est-à-dire César dans l'histoire, mais jusqu'à aujourd'hui. Et l'Église s'est battue même contre des chrétiens sur ce domaine. Charlemagne, l'an 1000, est-il saint ? Je ne sais pas, parce qu'il, vous savez, il a été proclamé saint par un antipape, enfin par un pape qui a été reconnu, qui n'était pas pape ensuite, et l'Église ne s'est jamais prononcée. Alors, vous pouvez penser que Charlemagne est saint ou pas saint, ce n'est pas mon problème. Quand Charlemagne a établi son empire, il avait avec lui les seules personnes qui parlaient, qui étaient instruites, c'est les clercs. Hein ? Ne vous laissez pas faire à croire que l'obscurantisme du Moyen-Âge vient de la religion. C'est l'inverse, hein ? C'est-à-dire que la lumière vient de la religion. C'est-à-dire que les seuls qui ont conservé l'intelligence, la réflexion, les livres, ben, c'est les moines, puis les prêtres séculiers. Et donc, Charlemagne, qui était très favorable à l'Église, s'était dit « Oh, je vais prendre l'Église avec moi et puis pour organiser mon empire. » L'Église a dit « Non, nous allons vous rendre service, nous allons vous fournir des fonctionnaires, pas de problème. Mais attention !» L'Église est indépendante. Votre pouvoir, vous le tenez de Dieu. Vous n'êtes que de l'ordre temporel. Tout empereur romain germanique que vous êtes, vous n'avez pas pouvoir sur la foi, vous n'avez pas pouvoir sur les âmes. C'est un long combat de l'Église durant toute l'histoire, y compris contre les rois de France, y compris contre les rois très chrétiens, etc. etc. Et puis, pour arriver à l'histoire plus récente, vous le savez, le nouveau césarisme du XXe siècle, c'est les totalitarismes matérialistes ou raciaux qui ont tenté d'exclure Dieu et de faire du Duce, du Führer, du petit père des peuples, un Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas se tromper, quelqu'un qui ne peut pas errer, quelqu'un qui a toujours raison. L'Église, encore aujourd'hui, se bat contre ces erreurs, qui sont souvent des mensonges. L'Église, encore aujourd'hui, se bat au Vietnam, en Chine, contre l'erreur matérialiste communiste. Nos frères, encore, sont détenus. Il me souvient, quand j'étais au séminaire, d'un prêtre qui, chinois, brillantissime, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été arrêté, sitôt rentré chez lui, a été détenu. Pendant un an, on ne savait pas s'il était vivant ou mort. Eh bien, cette erreur de vouloir faire rentrer la religion à l'intérieur de l'État, elle existe. Et je me demande, mais je vous laisse répondre, si le libéralisme philosophique que nous connaissons, qui tente à nous dire, oui, la religion peut-être, mais dans la sacristie, dans votre chambre, quand vous avez fermé la porte, parce que c'est même marqué dans l'Évangile, mais surtout ne nous parlez pas de ça dans la cité, surtout pas de crèche, surtout ne parlez pas de Dieu, surtout pas de croix dans les rues, est-ce que par hasard, ça ne serait pas un moyen de réduire notre foi ? C'est exactement ce que dit le Concile Vatican II dans sa déclaration sur la liberté religieuse. La première liberté de l'homme, c'est d'avoir la foi. de se déterminer, de prier, y compris publiquement. Bien sûr, dans notre pays, je ne voudrais pas, c'est respecté. Cette église est mise à disposition, elle nous a été prise, mais elle est mise à disposition de des croyants. Mais attention, gardez un œil vigilant, car cette erreur avance. La séparation de l'Église et de l'État, telle que nous la vivons aujourd'hui, semble arriver à une impasse. Peut-être que c'est les chrétiens, en lisant l'Évangile, qui vont pouvoir donner des solutions. Alors je ne suis pas là pour vous donner des solutions, je ne suis pas là pour un programme politique, moi. Je suis là pour vous dire que dans l'Évangile, il y a des réponses. Si vous méditez, et que selon votre intelligence, parce que vous êtes dans le monde, et comme le dit le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, il appartient aux laïcs, d'abord, d'organiser le monde selon les principes de l'Évangile. Car ce que je crois informe toute ma vie. Il n'y a pas de séparation. Et je finirai par une anecdote. Parce que ça semble agréable de dire, comme on sépare le pouvoir politique du temporel, il n'y a pas de lien. Mais il ne peut pas ne pas y avoir de lien. Ou alors, s'il n'y a pas de lien, c'est qu'on ignore, c'est qu'on méprise. On m'avait dit il n'y a pas longtemps, c'était les élections politiques, « Ah oui, mais toi ne donne pas ton avis parce que toi tu es chrétien, donc je sais ce que tu vas dire selon la foi chrétienne. » Mais j'ai répondu à mon interlocuteur, « Tu n'es pas chrétien. » « Mais selon quelle philosophie tu vas répondre ?»« Moi aussi j'ai ma philosophie de chrétien. » »« Mais toi tu vas répondre selon ta philosophie d'athée. » »« Mais tous les deux nous avons une philosophie, je ne vois pas pourquoi moi je serais moins libre que toi. » »« D'abord parce que moi je sais. » Quel est mon maître ? Toi, tu ne le sais pas. Alors, n'ayez pas peur. Nous sommes vraiment libres et c'est à partir de la lecture de l'Évangile, à partir de la méditation, c'est en cherchant Dieu, comme l'a dit le pape Benoît XVI en venant ici à Paris en 2008, au monde de la culture et à l'Académie des sciences, il a dit, des sciences morales, il a dit, c'est en cherchant Dieu que les chrétiens ont créé le monde. On crée notre culture. Alors n'ayez pas peur de l'informer. L'anecdote que je voulais vous raconter, j'allais l'oublier, mais la voilà. C'est Jean-Paul II. Vous connaissez son amour pour sa patrie, la Pologne. Il y est allé plusieurs fois. Et lors de son premier voyage, qui a été raconté par le cardinal Lustiger, puisqu'il en faisait partie, eh bien il a eu cette anecdote très forte. C'est pas une anecdote, cette histoire très puissante. Nous étions en 84. Au tout début du pontificat de Jean-Paul II, à l'époque, vous vous en souvenez, où le rideau de fer existait encore, où le poids du communisme très fort existait et oppressait l'Église. Et Jean-Paul II avait tout de même obtenu un voyage, mais très encadré. Il avait dû déclarer son homélie au commissaire politique de Varsovie, et puis il devait dire mot à mot ce qui était marqué sur sa feuille, et rien de plus. Pas un mot de plus. Alors, c'est ce qu'il a fait, il y a eu la messe. Et puis, avant de partir, il était à l'annonciature apostolique, où il a habité pendant 3 jours. Et le peuple de Varsovie, peut-être venant de toute la Pologne d'ailleurs, s'est massé devant cette nonciature. Il y avait du monde, paraît-il, on a des photos, à ne plus savoir quoi faire. Mais Jean-Paul II n'avait plus le droit, selon l'ordre temporel, de parler au peuple. Alors, il en avait une grande envie. Il sentait dans sa conscience que le bien était là, de dire à son peuple que la liberté existait. Alors il fait un tour de table et il demande autour de lui, c'était des cardinaux, l'avis de chacun. Et le cardinal Lustiger raconte, la plupart étaient défavorables, y compris le conseiller d'État, en disant, ils sont là pour longtemps, le communisme va peut-être encore régner pendant 1000 ans. Alors, pas de vague. Ne disons rien, respectons la loi. Jean-Paul II, qui a toujours respecté la loi, y compris quand il était encore en Pologne, a pensé que là, c'était injuste. Il est donc sorti, il a ouvert les fenêtres et il s'est adressé de son cœur au peuple. Il leur a dit que c'est dans l'Évangile qu'ils trouveraient la vraie libération, que c'est là et à partir de là qu'ils trouveraient une solution pour vivre dans un pays libre de toute domination. C'est ce qui s'est réalisé. 10 ans plus tard, le mur est tombé. C'est à partir de la brèche de la parole de Dieu que tomberont toutes les dictatures du monde, car leur pouvoir, c'est celle de Satan. Elles n'ont qu'un temps. Mais bien, chers frères, soyons du pouvoir de Dieu, maintenant et toujours.